De quoi s'agit-il ?
C'est tout ce qu'il y a de simple, voyons.
Enfin, qui êtes-vous ?
Répondez.
Je ne sais pas pourquoi vous nous faites perdre notre temps.
C'est vraiment incompréhensible.
Alors j'écoute.
Merci.
Eh ben je vous écoute, parlez, allez.
Allez-vous me répondre, oui ou non ?
Cinérama.
Vous en êtes sûr ?
Je suis certain.
Ah, un petit mot encore.
Cinérama.
Que faites-vous maintenant ?
Actualité cinéma.
Ah bah voyez-vous ça.
Et tout le reste.
Je ne crains pas d'affirmer que notre émission est une entreprise de salubrité publique.
C'est délicieux. Nous avons tous nos petits fantasmes.
Je sais que vous êtes très occupés, aussi nous ne vous retiendrons pas longtemps.
Je serais ravi de vous croire.
Bonjour, on n'a toujours pas vu Avengers Endgame, le meilleur démarrage de film de tous les temps au cinéma. Un succès d'ailleurs qui nous incite à ne rien en dire, mais on a vu beaucoup de films en salle depuis le 1er mai, Marine, et toi tu as une thématique commune sur tes films.
Eh bien
films.
Oui, en fait je me suis aperçue que les trois films dont je vais vous parler aujourd'hui ont en commun que leur personnage principal soit une mère de famille, voilà, qui va devoir faire face à un problème inattendu pour justement sauver sa famille. Un film belge qui s'appelle Duel qui est très réussi, un film grec sur la crise notamment qui s'appelle Her Job, et un film français Mais vous êtes fous avec Pio Marmaille.
Et puis moi, il sera question de la famille, mais d'abord de l'adolescence avec Alice T de Radu Muntin. Je crois que c'est comme ça qu'on le dit, réalisateur roumain. Il sera question aussi d'un film guatémaltèque, Tremblement. Et puis, eh bien, de potes qui vieillissent ou pas ensemble, c'est Nous finirons ensemble, le dernier film de Guillaume Canet, La suite des petits mouchoirs. Ce sera l'occasion de jouer un blind test. Il faudra découvrir eh bien 5 titres de la filmographie de Guillaume Canet. Ainsi débute Cinérama, mais avec un petit coup de speed, de la drogue.
Vous avez vu un bon film aujourd'hui ?
Cinérama.
Eh bien, oui, je crois que oui.
On a fait une batterie d'examen, des analyses de sang, un scanner.
Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Dites-nous.
On a trouvé des traces de cocaïne dans son organisme.
Quoi ? Mais il y a forcément une erreur.
Il n'y a pas d'erreur.
Oui, on commence avec donc de la drogue et avec Mais vous êtes fous. Roman et Camille semblent former avec leurs deux filles une famille quasi parfaite et sincèrement unie. Mais Roman cache un lourd secret, une sévère addiction à la cocaïne qu'il a pourtant réussi à dissimuler à son entourage depuis toujours. Jusqu'au jour où sa plus jeune fille est prise de convulsions, les tests effectués à l'hôpital sont sans appel, elle est droguée à son insu, et ce depuis des années. Forcé de révéler son secret, Roman en subit les conséquences de plein fouet. On lui retire ses deux enfants et on l'oblige à se séparer de sa femme le temps qu'il réussissent à prouver qu'il n'a pas volontairement drogué sa fille. Commence alors pour lui un chemin de croix juridique et personnel. Déterminé à changer, Roman va se rendre compte que sa véritable addiction, la seule qui compte, est l'amour qu'il porte à sa femme. Mais cet amour sera-t-il suffisamment fort pour l'empêcher de retomber dans les paradis artificiels ?
Sérieux, monsieur Clémenti ?
Je les ai pas drogués.
Destitution des droits parentaux, prison ferme. Alors on leur dit quoi ?
Il faut qu'on trouve l'explication. C'est peut-être passé par l'air.
Tant que vous resterez en couple, vous aurez l'air de soutenir votre mari.
Ouais, il faut qu'on sépare aussi ça.
Bah, juste un truc. Tu me crois ?
On nous ment depuis des années. Non plus, j'ai rien vu. Je veux pas qu'on dise du mal de lui aux filles.
Pour nous, c'est comme s'il était mort.
Et si c'était ton fils, tu penses pas qu'il faudrait l'aider, le soigner ? Si on dit que c'est lui le coupable, t'auras plus de chances de récupérer les filles. Moi, mon mec, il me ferait ça, franchement, j'hésiterais pas.
Audrey Diwan signe avec Mais vous êtes fous, son premier film. Alors, quelques mots sur elle, hein, parce que sa trajectoire est suffisamment, j'ai envie de dire, suffisamment plurielle et singulière pour être soulignée. Audrey Diwan est l'une des rares journalistes devenues cinéaste, au même titre que Nicolas Saada, par exemple, même si lui est davantage critique de cinéma. Elle est également romancière, essayiste et éditrice. Et elle navigue entre des thématiques de prédilection assez diverses, telles que les sciences politiques, la mode, elle a été rédac-chef du magazine Glamour, et donc le cinéma. Mariée au réalisateur Cédric Gimenez, elle a scénarisé certains de ses films tels que Aux yeux de tous, et a également écrit bon nombre d'œuvres très loin de ce que les esprits traditionnels pourraient imaginer naître sous la plume d'une femme, La French, Le chant des sirènes ou encore la série Mafiosa. Mais vous êtes fous est à la fois un drame social et une histoire d'amour, inspirée par ailleurs d'un fait divers assez incroyable. On retrouve le goût de la réalisatrice pour les ambiances tendues et le suspense lors de la première partie, la plus réussie d'ailleurs, au cours de laquelle l'addiction de Roman et ses effets sur sa santé et sur sa vie sont traités comme un thriller. Le travail sur le son, sur la lumière, sur les cadrages n'ont rien d'un drame classique et génèrent une véritable angoisse, évoquant un autre film social français à la mise en scène proche de celle du cinéma de genre, Jusqu'à la garde de Xavier Legrand. Passé cette introduction assez magistrale, le film se concentre ensuite davantage sur le couple que sur l'addiction, établissant un parallèle assez évident et un peu facile d'ailleurs entre la drogue et l'amour. Alors si Céline Salette, qui prête ses traits à Camille, est plus que crédible, hein, en mère et en amoureuse, le fait que le scénario se focalise sur elle et délaisse le personnage de Roman rend la rédemption de ce dernier assez peu crédible. On a du mal à croire hein, que ce toxicomane qui semblait consommer plusieurs grammes de cocaïne par jour depuis plusieurs années arrête sa consommation du jour au lendemain, même par amour. La mise en scène est donc sans doute un peu trop dichotomique. On passe d'une ambiance de quasi film d'horreur dans la première partie à une chronique familiale qui finit bien dans la seconde. Et c'est dommage car ça enlève sans doute de l'intensité au film qui n'en demeure d'ailleurs pas moins réussi hein, et ce en grande partie grâce à ces deux comédiens, Céline Salette donc, et Pio Marmaille. Par contre, je crois pouvoir dire quand même que nous vivons une situation compliquée dans le cinéma français. Il y a clairement une pénurie de titres de films, de titres vraiment, il faut arrêter de donner des noms de chansons comme titres de films, que ce soit « Laisse tes mains sur mes hanches »,« Quand j'étais chanteur », »,« Une chanson pour ma mère ». Surtout dans le cas présent, alors là le titre est totalement tiré par les cheveux, hein, il n'y a quasiment aucun rapport entre le titre du film et celui de la chanson, enfin, et son histoire.
Oui, c'est vrai. Pratiquement aucun,
vraiment.
Oui,
non, vraiment, oui. à part une toute petite scène au début du film où Pio Marmaille chante cette chanson, il n'y a pas de
rapport.
Mais
c'est quoi la chanson, en fait ? Excuse-moi.
Mais vous êtes fou. Oh oui.
Ah, Benny B dans les années 90. Waouh, waouh, waouh.
Et ça ne se passe pas du tout dans les années 90 non plus, le film. Hein, donc,
Ah ouais, c'est une référence qu'ils avaient. Allez, on change d'univers. On va en Roumanie, mais ça aurait pu être ailleurs. C'est une grossesse qui resserre les liens entre une mère et une fille.
Et maintenant,
Cinérama.
Tout est parfaitement en ordre.
Voilà qui fait du bien de ne pas avoir à regarder un film roumain qui ne traite pas de la situation économico-sociale du pays, mais qui s'intéresse à un moment de l'existence, l'adolescence. Il y a si peu de films roumains abordant le thème de l'enfance, d'ailleurs, hein, que l'équivalent du CNC roumain a donné un peu d'argent à tous les films qui pourraient traiter de ce genre de sujet ces derniers temps. C'est le cas de Alisté, un titre qui signifie qu'on va s'intéresser à un personnage, hein, celui d'Alice, jeune roumaine de 16 ans vivant à Bucarest. Orpheline, elle a été élevée par une mère adoptive, Bogdana, et si la relation ne semble pas au bout fixe, hein, pense-t-on à la lueur des premières séquences, les choses vont curieusement s'arranger quand Alice va concéder être enceinte. Un aveu perturbant, sa mère adoptive qui apparaît alors la dépassée, non seulement parce que sa fille a du mal à s'assumer et qu'on se demande bien comment elle pourrait élever un enfant, mais aussi parce qu'il s'agit d'un miroir déformé. La mère ne peut s'empêcher de s'identifier à ce qui arrive à sa fille, car si elle a adopté un enfant, eh bien c'était par défaut, elle a évidemment voulu être enceinte. En 1h45, le réalisateur Radu Muntean va coller à la culotte de la jeune roumaine qui, de prime abord, alors n'est pas sympathique. Hein, fronde contre l'autorité, à l'école et à la maison, légèreté dans ses choix et ses rapports aux autres, mensonge à tout va. Alice teste son environnement et voit jusqu'où elle peut aller. Le réalisateur ne la juge pas, une tactique qui s'avère évidemment payante, car à mesure que le long métrage avance, eh bien on tente de comprendre ce qui construit ses désirs et son rapport, pas si facile, à la réalité. Alors au fil du récit, qui est agrémenté de nombreux plans-séquences, ce qu'affectionne particulièrement le réalisateur, eh bien, la relation mère-fille va devenir un élément structurant de la narration avec en ligne de mire l'enfant à naître. Le réalisateur exploite la relation paradoxale vécue par la mère et la fille. Et malgré les nombreux plans-séquences, eh bien, la mise en scène se montre nerveuse. C'est davantage d'ailleurs la multiplication des lieux dans lesquels Alice se déploie, la maison, l'école, les amis, le père au bord de la mer Noire, la ville, comme Bucarest, très bien éclairée, eh bien, qui va dynamiser ce long métrage et qui ne choisit jamais la facilité. Un enjeu dramatique dont je ne révélerai rien, eh bien, va également permettre au spectateur d'en savoir davantage que certains personnages. Le réalisateur roumain décide d'opter pour un point de vue omniscient avec un scénario très écrit. Hein. Le personnage d'Alice semble absolument crédible. Son comportement, ses mensonges, ses vérités, ses renoncements, ses échecs, ses attentes, tout cela participe à dresser le portrait d'une période, l'adolescence, où bien certaines choses restent en suspens, où certes tout autour de nous bouge, où il faut faire des choix, mais où finalement eh bien, on peut rester seul. C'est pourquoi la mise en scène, même si nous côtoyons eh bien, essentiellement des personnages féminins, ne s'attachent qu'à son sujet principal. On est là face à un sujet universel. Le fait que cela se passe en Roumanie bien, n'a aucune importance. Tout comme en France et de nombreux pays, bien, il y a la ville, il y a la mer et les vacances. Et le milieu dans lequel on évolue, plutôt modeste, eh bien, n'a lui aussi eh bien, aucune importance. Méticuleusement, Radu Muntean suit ses personnages en s'approchant d'eux au plus près dans des scènes du quotidien. Le jeu de l'actrice Andra Gouti, qui est de tous les plans, appuie la volonté du réalisateur roumain de donner un élan réaliste à son long métrage. Il ne s'agit pas d'une actrice professionnelle, mais son jeu, hein, dans les rapports d'opposition aux adultes notamment, est exceptionnel. Cette interprétation est d'autant plus captivante que cheveux rouges, regard lumineux, légère en bon point, Alisté, qui n'a donc pas de nom déterminé, hein, conformément finalement à sa perte de repère, eh bien, Alisté a une allure singulière. La maintenant comédienne a reçu le prix d'ailleurs d'interprétation féminine à Locarno, où le film eh bien, été présenté. Un prix qui n'est bien souvent impossible à obtenir sans un réalisateur qui met l'interprétation au premier plan. Et c'est le cas dans ce film, avec donc un réalisateur qui a été souvent présenté à Cannes dans la section Un certain regard, Alisté de Radu Muntean. Eh bien, c'est en salle à partir du 1er mai, tout comme Her Job que tu as vu, Marine.
Et maintenant, quelle est la suite des opérations ?
Cinérama.
On va regarder ça.
De nos jours, en Grèce, Panayota est une femme au foyer, native d'un village pauvre, épousée par un citadin qui s'est avéré guère plus riche que sa propre famille, soumise à la tradition et aux hommes donc depuis toujours. La crise financière que traverse son pays va paradoxalement la pousser à une émancipation inattendue, lorsqu'elle va obtenir le premier travail de sa vie. Embauchée comme femme de ménage dans un nouveau supermarché clinquant, elle va passer du statut de ménagère tyrannisée par sa famille à celui d'employée modèle et vaincre sa timidité grâce à ses collègues solidaire et déluré. La mise en scène de Nikos Labot échappe à ce que l'on pourrait attendre d'un drame social sévèrement ancré dans l'actualité. Ici, pas de plans serrés, pas de caméra tremblotante plus près des personnages, mais des plans souvent fixes, larges, assez construits, symétriques, plutôt beaux même. Cela n'empêche pas le film, alors évidemment, d'être d'une grande austérité. En même temps, pour un film sur la Grèce... Pardon, c'était une blague anticapitaliste. Peu de dialogue, pas de musique. Par ces simples images, le film décortique avec minutie comment la crise s'insère dans les foyers, dans les relations familiales, dans les couples qui n'en sont plus, mais qui deviennent bien des naufragés devant la pauvreté. Cet état des lieux d'un pays fracassé par la crise économique est aussi cruel que le portrait de femme qu'il dessine, un pays dans lequel on se réjouit d'être femme de ménage, d'enchaîner des contrats précaires et sous-payés, tandis qu'en parallèle, des plans insistants sur des intérieurs de supermarchés flambant neufs nous rappellent bien que ce n'est pas la crise pour tout le monde. Her Job est également... une sévère critique du capitalisme, doublée d'un vif encouragement à l'émancipation féminine par le biais du travail et non par le travail domestique, ce qui, il me semble, est assez proche de l'idéologie marxiste, si je ne dis pas de bêtises. C'est un film percutant et objectivement réussi en tout point. En même temps, j'ai envie de dire, c'est aussi un film qui est douloureux à regarder, hein, qui est révoltant. Le personnage principal n'est pas un personnage digne, comme ceux que l'on retrouve chez Ken Loach ou chez les frères Dardenne. C'est ce qui le rend d'autant plus bouleversant. Panayota est dans une souffrance, dans une soumission permanente. On comprend que cette femme a clairement une vie horrible, du début à la fin. Et sa timide émancipation ne permet pas pour autant d'achever le film sur un véritable changement, simplement sur une légère note d'optimisme, ce qui fait que l'on sort de la salle moyennement requinqué. Hein. Voilà, bon, c'est pas un feel-good movie,
oui.
Clairement.
Bon, bah c'est la Grèce, voilà, comme tu l'as dit.
C'est l'austérité.
Eh bien, pour l'instant, nous avons parlé plutôt de films qu'on a appréciés. La tendance est plutôt maintenant à la baisse, mais ça va quand même nous donner l'occasion de jouer au blind test de cette émission avec Guillaume Canet. Nous finirons ensemble.
Bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
Cinérama.
Connerie, 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 je vous dis. Et même saloperie, hein.
Je comprends pas. Je te dis que je vais pas bien. Que j'ai besoin d'être seul.
Et toi, t'invites une bande de potes que j'ai pas vu depuis bientôt 3 ans pour faire une fête ?
Tu m'as manqué, mon pote.
Quand un film bat des records d'entrée qui devient un succès, difficile de ne pas en faire une suite, hein, surtout quand il s'agit d'un film de potes. Les potes vieillissent, s'acoquinent, se séparent ou meurent, le scénario est plus limpide, l'angoisse de la page blanche est évitable. En 2010, Les Petits Mouchoirs avaient dépassé les 5 millions d'entrées, devenant le premier film français du box-office cette année-là. Un succès davantage porté par le casting que par le film de Guillaume Canet, qui a peu convaincu les critiques et même une franche partie du public. Pour dire, dans l'équipe de Cinérama, hein, je fus le seul désigné pour voir la suite de ce succès. Alors pourquoi ? Parce que je ne pense rien des Petits Mouchoirs, ne l'ayant pas vu ni à sa sortie, ni lors de son passage de télé, ni même en rattrapage à la sauvette sur Internet. Alors, pêle-mêle, j'ai retenu quelques mots, hein, le qualifiant quand même, ce film, Les Petits Mouchoirs, drôle, long, émouvant, pathétique, moralisateur et même beauf. Alors, Guillaume Canet raconte que l'idée de refaire une suite des Petits Mouchoirs lui est venue après être tombé dessus à la télévision, se surprenant à rire à son propre film et apprécier les personnages. Oui, il l'a avoué, c'est rare. Cependant, le réalisateur a expliqué qu'on pouvait très bien voir la suite sans avoir vu le modèle. J'ai donc vu, eh bien, Nous finirons ensemble, qui réunit François Cluzet, Marion Cotillard, Gilles Lelouch, Laurent Lafitte, Benoît Mijimel et quelques autres. Autant dire, pas de jeunes premiers. Alors, ce beau monde se revoit quelques années après le drame des Petits Mouchoirs. Max, interprété toujours par un François Cluzet, alors qui devient agaçant à force de colère exagérée, s'est retranché dans sa maison du Cap Ferret parce que bon, il a une sévère dépression et on sent qu'il en a gros, hein, sur la patate. La bande débarque à l'improviste pour lui fêter ses 60 ans. L'accueil n'est pas très bon, pour ne pas dire glacial.
Alors
on va peut-être pas rester, hein.
Ah ouais, carrément.
Véro arrive dans 2 jours et moi, évidemment, j'étais censé me barrer.
On voulait juste faire une surprise pour ton anniversaire.
Mais je ne veux pas fêter ce putain d'anniversaire. Merde.
Bon, mais après quelques atermoiements qui donnent l'occasion à Cluzet de cabotiner, Max décide que le groupe peut rester avec lui, mais ça sonne faux, naturellement, au cours de ce séjour qui va durer une semaine, le groupe va se dire tout ce qui lui vient sur le cœur, ou presque.
C'est pas parce qu'on a été potes pendant 20 ans qu'on est obligé de rester, hein.
Max, on est revenu parce qu'on n'a pas envie de vivre sans toi.
Tu le sais bien, peut-être t'es comme mon grand frère, pas tes grands frères à tous.
Pour moi, qui n'ai pas vu le premier volet et qui ne connaît pas les personnages, eh bien ceux-ci sont suffisamment bordés pour les suivre sans avoir leur CV en tête, même si évidemment je perçois mal leur progression. Le personnage interprété par Gilles Lelouch gagne maintenant beaucoup d'argent, il a un enfant, et les enfants sont d'ailleurs un ressort comique ou dramatique tout au long du film. Hein. Gilles Lelouch ne sait tellement pas s'en occuper qu'une nounou forcément grosse et psychorigide s'en occupe. Le fiston du personnage de Marion Cotillard est sans cesse repoussé par sa mère qui livre un personnage caricatural. Alors bien sûr qu'on est dans la comédie hein, et qu'on peut grossir le trait, mais là où Guillaume Canet échoue, c'est que ses parents, qui n'ont pas l'air très concernés, vont retrouver la fibre parentale par une pirouette scénaristique. Alors on n'y croit pas, mais on ne croit pas à grand-chose, me semble-t-il, comme au couple très ouvert qui mêle Benoît Magimel, son Jules et son ex-femme qui se libère avec Tinder. Ça sent la paresse d'écriture, hein, quand même. Même si la tonalité du film est celle d'une comédie, le seul vrai personnage de comédie, à mon sens, est celui de Laurent Lafitte, un éternel ado, sans filtre. Ce sont les seuls moments de rire sans complaisance. Guillaume Canet se plaît d'ailleurs, à reprendre son idée de la transformation monstrueuse vue lors de Rock'n'Roll, son précédent film, ce qui est une bonne idée, hein, vraiment, mais bon, allez, ça veut dire qu'il ne pourra plus la refaire parce qu'après deux fois, c'est fini. Évidemment, je ne nie pas que retrouver des personnages qu'on a appréciés dans une précédente histoire permette de trouver du plaisir à regarder Nous finirons ensemble, mais pour moi, qui n'ai pas vu donc, Les Petits Mouchoirs, eh bien, l'amitié entre ces bourgeois contents d'être enfin dans une maison de vacances en première ligne au Cap Ferret m'apparaît surfaite. Et tu as appris à cette occasion, d'ailleurs, quand je t'ai dit que j'avais vu ce film, que la première ligne, c'est être au bord de la mer. Voilà, donc c'est bon. C'est comme une sorte d'accession sociale. D'ailleurs, l'Office de tourisme du bassin d'Arcachon peut se féliciter d'avoir trouvé en Guillaume Canet un ambassadeur parce que bon, les plans sur le bassin sont forcément très beaux, aériens et ainsi de suite. Si Canet tente de bien cerner ses personnages, il insiste davantage sur Max, qui n'est pas foncièrement le plus intéressant. Nous finirons ensemble s'étirer, on vit des moments de franche amitié, des moments en discothèque, des moments autour d'une table, des moments graves, d'autres plus légers. Ainsi va la vie, oui, mais sans éclat cinématographique.
Ils ont prévu de rester combien de temps ?
La semaine.
Allez, c'est le jeu de cette émission. On va jouer au blind test. 5 extraits. Alors, il y a des films avec Guillaume Canet, mais aussi de Guillaume Canet dans ce blind test. Premier extrait.
Je vous présente ma vie vers 35 ans. J'avais tout. Une femme, deux enfants, trois potes, quatre crédits, 5 semaines de vacances, 6 ans dans la même boîte. 7 fois mon poids en matériel IFI. 8 coïts conjugaux par trimestre. 9 fois le tour de la Terre en emballage plastique, couvercle de polystyrène et autres packaging alimentaire non biodégradable. Et 10 ans sans voir mon père. Le bonheur. La panoplie du parfait tyran dont j'avais rêvé toute mon enfance.
Alors, ça n'a pas été trouvé. Alors, ben c'était avec sa compagne. Film de 2003. C'est pas lui qui l'a réalisé, c'est Yann Samuel.
C'était Jeu d'enfant ?
Oui, Jeu d'enfant, oui. Allez, deuxième extrait.
J'ai froid.
C'est pas normal. Faut que tu grossisses. Hein.
Bah, tu vas m'aider.
Quoi, avoir moins froid et être plus appétissante?
Bah ouais.
Non, pas question. Si c'est pour que tu te fasses enlever par le premier blaireau qui passe, je te préfère rachitique et avec Noah. Bon, allez, je veux plus t'entendre. Ah putain, il est pratiquement 2 heures. Il faut qu'on dorme.
En fait, tu te donnes des airs comme ça, mais t'es un gentil, toi.
Ta gueule.
Ça a été trouvé. Audrey
ouais,
Tautou.
C'était ensemble, c'est tout. Et oui. Il joue un cuisinier qui essaye de remplumer Audrey Tautou.
Et film de Claude Berry de 2007, troisième extrait.
Je vais détruire et tuer au hasard, jusqu'à ce que je sois tué. Je suis libre de la plus réelle liberté qui puisse exister. Vos policiers et gendarmes ne sont pas des guerriers. Moi, j'en suis un. Je vais tuer d'autres filles. Je vise le cœur. Si j'arrive à conserver le corps d'une fille, je le découperai et j'en sèmerai les morceaux dans les villes. Bientôt, ce sera l'enfer.
Excellent film de Guillaume Canet, non ?
Une très bonne comédie, oui. La prochaine fois, je viserai le cœur. C'était sur le gendarme tueur de l'Oise.
Oui, Ouais, dans les années 70. Et donc, c'était un film de Cédric Anger. Allez, un plus facile.
Tiens, Bastien, viens m'aider, il va en foutre partout.
Mais attendez, il vaut peut-être mieux pas le toucher, là, hein, pour la police.
Quoi, la police? Quelle police?
On va appeler la police, non?
Tu veux leur expliquer ce que fait un kangourou plein de coke allongé dans mon salon? Tu veux leur dire quoi, là, qu'il a glissé? Allez, crois-moi, on n'a pas le choix.
Et qu'est-ce que vous voulez faire?
Bah, le foutre dans les bois, il a toujours adoré la nature.
Attendez, je vous arrête tout de suite, là. Si vous croyez que je vais vous aider à enterrer un animateur vedette en pleine forêt, vous me prenez définitivement pour un con, hein. Qu'est-ce que j'y gagne, moi, à fermer ma gueule?
Sa place.
Ça a été trouvé, Marie.
Et c'était mon idole.
Film de 2002, donc là, réalisé par Guillaume Canet.
Et avec Diane Kruger.
Oui, et avec François Berléand, qu'on entendait.
Non, mais sincèrement, tu me vois vraiment comme ça?
Bah, je suis pas la seule, hein.
Comment ça?
Bah, l'autre soir, on bouffait avec des copines et on parlait des acteurs français avec qui on voudrait bien niquer. Et... bah, franchement, t'as bien chuté dans la liste.
Comment ça, la liste? Quelle liste?
Laisse tomber, faut que j'y aille.
Non, non, je laisse pas tomber, là. C'est quoi, cette liste? Y a une liste? Non, mais il y a qui, par exemple, dans cette liste? C'est juste pour me rendre compte.
Bah, je sais plus. Gilles Lelouch.
Gilles Lelouch? Ouais, tu vois, c'est bien dommage. Parce que tu parles des gens sans les connaître. Je vais te dire un truc. Si t'avais pas été si pressé, là, je t'aurais bien prouvé le contraire dans ma loge.
Mais je suis pas pressé. Tu veux? Viens, on va baiser dans ta loge.
Mais là, faudrait que je range parce qu'il y a les jouets de mon fils, c'est un peu glauque.
Tu vois, ça, c'est pas le genre de réponse qu'aurait fait Gilles Lelouch.
Bon, c'est important de laisser la séquence dans sa durée, ça a été trouvé.
Ouais, c'était rock'n'roll. Bah, un de ses propres films, d'ailleurs. Son avant-dernier.
Oui, oui. Et bah, c'est la mise en abîme, puisque c'est Guillaume Canet, acteur, hein, qui voilà, se met en scène. Ainsi s'achève ce blind test et on revient.
Et si je pouvais voilà, juste un petit conseil filmo, Guillaume Canet, je trouve que l'un des films dans lesquels il est le meilleur, c'est Darling, avec Marina Foïs, dans lequel il joue un mari violent. Et un de ses derniers films, L'amour est une fête, de Cédric Anger aussi, sur le début du porno dans les années 70, qui est pas mal du tout, avec Gilles Lelouch.
Encore. Allez, maintenant c'est deux femmes qui sont plutôt appréciées et qui se tournent au vinaigre.
J'entends beaucoup parler de votre travail.
Cinérama.
On s'en passerait aisément.
Maxime a eu un grave accident hier.
C'était un accident.
Tu n'aurais jamais dû le quitter, tes yeux.
Elle me fait peur, cette femme.
Oui, ça va tourner au vinaigre, c'est un euphémisme, hein, même. On va donc continuer avec Duel. Alice et Céline sont voisines, meilleures amies et toutes les deux mères d'un enfant du même âge. Un drame fait subitement basculer leur existence de femmes au foyer parfaite. Maxime, le fils de Céline, tombe par la fenêtre de sa chambre et meurt. L'amitié des deux femmes se mue alors en duel au soleil. Alice, dont la santé mentale est fragile, est persuadée que Céline lui en veut de n'avoir pu empêcher la mort de son fils et qu'elle compte s'en prendre au sien.
Elle te manipule et tu ne le vois pas!
Je devrais te faire enfermer.
J'ai perdu pied.
Alors l'originalité de ce film, situé dans les années 60, est de n'être ni un film d'époque, ni un drame intimiste, mais un thriller. Entre paranoïa, esthétique, 60s et musique quasi sirupeuse, très appuyée, rappelant les grandes heures du mélodrame hollywoodien façon Douglas Sirk, Duel se forge sa propre originalité entre drame et thriller. Maintenu avec force par une distribution sans faille et une photographie assez sublime, le nouveau film du réalisateur Olivier Massé de Place fascine de bout en bout. Ses deux comédiennes principales y sont pour beaucoup. Vire Le Beatons, que l'on connaît en France depuis Alabama Monroe, campe ici un personnage qui rappelle totalement les muses de Hitchcock, une maîtresse de maison parfaite à la coiffure blonde irréprochable dont les gestes automatiques et quasi obsessionnels camouflent difficilement des névroses prêtes à ressurgir à chaque instant. Quant à Anne Cossens, inconnue chez nous, hein, mais l'une des muses d'Olivier Massé de Place depuis 10 ans, elle incarne brillamment un personnage qui réussit à demeurer ambigu jusqu'à la fin, multipliant pour le spectateur les fausses pistes et les doutes. Alors seule critique, hein, la magnificence des plans est parfois totalement gratuite. La photographie, la mise en scène manque parfois un peu de sens, de fond. Et l'on soupçonne, c'est vrai, le réalisateur d'avoir simplement pris plaisir à pasticher les cinémas des années 50 et 60. Alors cela n'empêche pas Duel, hein, d'être une œuvre envoûtante, rondement menée, jusqu'à une conclusion dérangeante, mais qui a le bon goût, eh bien, d'achever ce thriller solaire de façon glaçante. Moi, je le recommande. Mmh. Et vraiment en salle, parce qu'il est vraiment, c'est vrai, esthétiquement assez sublime.
Eh bien, on le trouve en salle depuis le 1er mai. Tout comme Tremblement, l'homosexualité vue comme une maladie dans une société guatémaltèque est bien cernée par la religion.
Voyez ce que vous pouvez nous concocter de beau dans ces 5 minutes.
Cinérama.
On va regarder ça.
Les films provenant du Guatemala distribués dans les salles françaises sont peu nombreux. Hein, m'est avis que si on n'a pas dans son entourage hein, ou une guatémaltèque, on passe à côté des rares films provenant de ce pays d'Amérique centrale disponibles en France. Tremblement de Jero Bustamante a été projeté au Festival de Berlin dans la section Panorama. Et Tremblement ne prend aucun détour, explore la société guatémaltèque vis-à-vis de l'homosexualité et examine le poids de la religion. On y suit Pablo, la quarantaine, un type issu d'une famille qu'on devine aisée. Il est père de 2 enfants, religieux, pratiquants, mais cet ordre vacille quand il rencontre Francisco et du même coup, eh bien, quand il fait son coming out. À partir de ce moment-là, sa famille, aidée par l'église, eh bien, vont l'aider à se soigner. Car l'homosexualité est vue eh bien, non comme un choix, une émancipation, hein, mais comme une maladie. Comme l'indique le pasteur à Pablo, Dieu aime les pécheurs, les accepte, mais il déteste le péché. L'homosexualité n'est pas tenable.
Lo más importante es no dejarse engañar por lo que uno cree que es felicidad.
Tremblement dans la musique aussi. Dès le début du film de Jairo Bustamante, on sent que quelque chose de lourd s'abat sur cette famille. Il pleut intensément, les mines sont tristes et tout le monde attend dans le salon comme on veille un cercueil. Pourtant, eh bien, la famille n'attend que Pablo. Non pas pour qu'il s'explique, hein, mais pour qu'il renonce, qu'il revienne parmi les siens qui ne sont eh bien, tout de même pas prêts à le lâcher. Les règles sont ainsi posées, qu'il s'agisse de sa femme horrifiée, de sa mère peinée, de son père qui lui conseille plutôt d'expliquer que c'était une erreur, de son frère aîné impuissant et de sa sœur qui conserve un peu d'empathie, eh bien tous savent qu'en partant avec Francisco, Pablo perd sa famille, toute sa famille, cela veut dire ses enfants. Mais il perd également son travail, son statut social, la religion est le seul salut, car un pasteur a prévu une cure de conversion pour les homosexuels qui sont identifiés comme des pédophiles, hein, quasiment. Il n'est pas étonnant que le réalisateur ait donné autant de place à la religion dans un pays comme le Guatemala, une bonne partie finalement de l'Amérique du Sud, eh bien les mouvements évangélistes sont devenus des forces politiques. Hein. Le film ne raconte pas autre chose. S'il dresse un constat sur la difficile reconnaissance des gays dans le pays, il raconte la mainmise de la religion et de ses préceptes moraux au sein d'une société qui apparaît archaïque. C'est très frappant pour un spectateur occidental. Hein. Les tremblements du titre prennent tout leur sens quand on mesure eh bien, d'une part la force avec laquelle la société condamne les choix individuels et d'autre part eh bien, la mainmise de l'Église sur les affaires de mœurs. Ainsi, au cours du récit de ce long métrage, qui va plutôt à l'essentiel et qui se tient en 1h40, le réalisateur a recours à un artifice de mise en scène un peu simpliste puisque les personnages subissent des tremblements de terre. Ceux-ci sont autant de métaphores voyantes sur l'impact du choix de Pablo et les conséquences eh bien, de l'homosexualité dans une société guatémaltèque rivée sur ses principes hétéronormés et patriarcaux. Terrifiant pour nous, les tremblements de terre ne sont pas craints par Pablo qui doit faire face à bien d'autres événements. Alors si le personnage de Pablo est évidemment crucial, celui de son amant l'est tout autant, quand l'un vacille et ne se sent finalement, hein, pas plus à l'aise dans sa vie homosexuelle qu'il doit affirmer que dans sa vie de famille hétérosexuelle, eh bien l'autre, son amant, tente de lui faire comprendre qu'être homosexuel dans un tel pays est difficile, mais il ne faut jamais croire ni faire croire qu'il fait le mal en préférant les hommes. Le réalisateur réserve également de la place au personnage de l'épouse qui, si elle condamne son mari, lui retirant la garde des enfants, eh bien veut aussi à tout prix rester une épouse et est prête à suivre eh bien, des cours de sexualité dispensés par la femme du pasteur, expliquant comment garder son mari à la maison, donc avec l'explication de pratiques sexuelles hein, pour le retenir. Car il ne faudrait pas croire que la culpabilité n'est pas partagée dans le couple. Tremblement est une œuvre soigneuse. Les cadres choisis par le réalisateur guatémaltèque sont précis et le montage indolore. On voit la bourgeoisie cloîtrée dans ses appartements et le bouillonnement de la ville de Guatemala City avec toute sa diversité. La lumière qui se caractérise par les contrastes ne manque pas de surligner le poids de la religion, de la famille et de la société sur les comportements individuels. La pénombre qui règne dans les intérieurs laisse place quand les corps ou la parole se libèrent à des lumières chaudes. La description faite dans Tremblement nous semble alors outrancière, lointaine, mais si on la compare finalement à ce qu'on avait vécu à l'époque du mariage pour tous, où l'église eh bien, était également montée au créneau, le sujet paraît peut-être moins exotique. Tremblement de Jairo Bustamante est en salle depuis le 1er mai. Alors juste un mot rapide pour terminer l'émission, on va parler de Cannes où nous serons présents tous les deux Marines, c'est important. Donc le président du jury, Alejandro González Iñárritu, eh bien, a maintenant eh bien, tous ses jurés. Et il y a des choses étonnantes, pour moi c'est un très bon jury. Il y a Elle Fanning, qui a à peine 21 ans, ce qui est assez, assez étonnant. Il y a Mamouna Ndiaye, alors là, j'avoue que je ne la connais pas, c'est une réalisatrice du Burkina Faso. Il y a Kelly Richard, je n'ai vu qu'un film, Wendy et Lucy, mais c'est le cinéma indépendant américain. Il y a une quatrième femme, Alice Rohrwacker, qui a fait Heureux comme Lazaro et Les Merveilles, notamment. Et puis, il y a Enki Bilal, Robin Campillo, ça, ce sont les deux Français. Robin Campillo qui avait gagné le prix, le grand prix du festival avec 120 battements, c'était en 2017. Il y a Yorgos Lanthimos, qui présente quasiment tous ses films à Cannes. Et puis Pavel Pawlikowski, le Polonais, qui l'an dernier, avec Cold War, avait remporté le prix de la mise en scène. Moi, je trouve que ce jury est vraiment pointu. Et peut-être qu'on aura quelque chose d'assez étonnant. Voilà. Et nous serons à Cannes, mais ce sera pour maintenant, dans une quinzaine de jours.
Vous avez fini ?
Eh bien, oui, je crois que oui. Oh,
c'est pas possible.
Ah, si, je vous assure.
Non, vous n'avez pas perdu de temps, c'est très bien.
Foutez ma gueule !
La semaine prochaine, on aura une interview, Marine.
Oui, je vais vous parler d'un film, français, un premier film d'un jeune réalisateur qui s'appelle Les Météorites. Et donc, j'aurai une interview de lui et de sa principale interprète.
Et nous reviendrons à Troyes.